une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent nos réels?
Billets d'Afrique de ce mois de mai est inspiré des textes de la revue de l'association Survie Billets d'Afrique et de l'édito de Mediapart. Aro sur l'aide au développement. La spectaculaire offensive lancée par Donald Trump et son administration contre l'Agence américaine pour le développement international, USAID, fait des émules chez nous. Toujours prompte à suivre le président américain, plus que jamais chef de file d'un néo-fascisme mondial, l'extrême droite hexagonale a donné à son tour l'assaut contre l'aide publique au développement, APD. Sans surprise, le journal du dimanche, propriété de Bolloré, est monté en première ligne, faisant la une de son édition du 23 février sur le scandale des milliards engloutis de l'aide aux pays étrangers, et sur ces délires que financent vos impôts. On y retrouve en page d'intérieur un entretien avec le député Rassemblement National, Guillaume Bigot, auteur en octobre d'un rapport réclamant un moratoire sur l'aide tricolore jugée illisible, coûteuse et peu efficace. De fait, l'aide internationale française est un agglomérat complexe de programmes disparates allant de projets en faveur de la santé ou de l'éducation jusqu'à des dépenses militaires. Son coût, en revanche, est dérisoire pour les finances publiques et donc pour « vos impôts », entre guillemets. L'APD représente en totalité moins de 0,5% du revenu national brut et 85% des ressources de l'Agence française de développement proviennent d'emprunts sur les marchés financiers. Si cette aide s'avère coûteuse, c'est d'abord pour les pays bénéficiaires, puisqu'elle n'est pas constituée que de dons, mais aussi en grande partie de prêts qu'il leur faudra rembourser, avec intérêt bien sûr. Derrière ces procès alimentés par des approximations et des contre-vérités, l'extrême droite cache en réalité bien mal son dessein véritable, s'attaquer obstinément à tout ce qui s'apparente, même de loin, à des formes de solidarité internationale et qui ne promeut pas son idéal raciste, sexiste, antidémocratique, anti-écologique. À ce titre, l'exemple des Pays-Bas est éloquent. La réduction drastique de l'aide au développement, de tiers en moins sur 3 ans, annoncé en septembre par un gouvernement dominé par le Parti de la Liberté, allié du RN au Parlement européen, va surtout permettre de stopper le financement de projets en faveur de l'égalité homme-femme et de l'action pour le climat. Priorité désormais à la lutte contre l'immigration irrégulière et à la défense des intérêts néerlandais. Ces intérêts nationaux, brandis de Washington à Paris en passant par La Haye, pour fustiger l'aide au développement, sont pourtant déjà très bien défendus par elle. Car cette aide est pensée pour permettre avant tout le développement de l'influence et de l'économie des pays qui l'octroient. Ainsi, la France, 5e pourvoyeuse mondiale d'aide au développement, en 2023 selon l'OCDE, veille-t-elle à ce que sa générosité favorise en priorité ses entreprises et à ce qu'elle soit distribuée à des pays qu'elle veut amis ou vassaux? L'APD, mise en œuvre au moment du délitement de l'Empire colonial français, est une des armes majeures de la France-Afrique depuis ses débuts. Soudaine et unilatérale, la liquidation de la majorité de l'aide états-unienne engendre aujourd'hui une succession de situations pénibles et même tragiques. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cela ne démontre pas un manque d'efficacité, mais bien une escroquerie, celle d'un système conçu pour maintenir les pays les plus pauvres sous la dépendance de leurs bailleurs, les condamnant à demeurer éternellement en développement et sous tutelle. Au Sénégal, le nouveau Premier ministre souverainiste, Ousmane Sonko, a finalement posé la seule question qui vaille. Doit-on continuer à dépendre de l'aide étrangère ? Texte de Benoît Gaudin.
Ngabamba yubukombe ngobyi yahetse nza kuvuga ibigwi.
Ben Barka, la disparition, dessine-moi ce que l'État français veut cacher. Alors que l'on s'apprête à commémorer les 60 ans de l'assassinat de Mehdi Ben Barka, David Servenay et Jacques Reynal reviennent dans une excellente bande dessinée sur cette affaire emblématique de l'autoritarisme de la Ve République. La bande dessinée du journaliste David Servenay et du dessinateur Jacques Reynal, Ben Barka, la disparition, chez Futurapolis, est une plongée vertigineuse dans l'affaire, jamais officiellement résolue, de l'enlèvement et l'assassinat en 1965 du militant socialiste marocain. Elle illustre bien l'un des objectifs défendus par la Ve République et ses amis autoritaires, neutraliser toute voie alternative à l'ordre, ici colonial. L'ouvrage alerte sur les mécanismes systémiques qui ont permis cette tragédie et sur les entraves antidémocratiques de l'État français à l'éclosion de la vérité et la justice. Ben Barka, la disparition, s'ouvre sur les minutes qui ont précédé l'objet de la plus ancienne enquête criminelle en cours dans les annales de la justice française, la disparition de Mehdi Ben Barka devant la brasserie Lip à Paris, en pleine journée du 29 octobre 1965. Son fils Bachir, qui souhaite lui redonner sa vraie place dans l'histoire du Maroc, le décrit en faveur d'un Maroc moderne, social, égalitaire et des revendications anticoloniales, anti-impérialistes et antiracistes de la Tricontinentale, conférence de la solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine dont il a été l'un des organisateurs. Forcé à l'exil, il ne pouvait qu'être perçu comme une menace par les gagnants du système mondial inégalitaire. En cette dernière année de sa vie, Mehdi Ben Barka est bien sûr la bête noire du régime marocain Hassan II. Mais surtout, il est devenu l'ennemi public numéro un des services secrets occidentaux. Comme une monographie, le récit de sa vie révèle les dessous de l'autoritarisme de l'État marocain d'alors et ses convergences d'intérêts sécuritaires avec des pays impérialistes qui lui fournissent un appui logistique pour réprimer, à l'instar d'Israël de la France, autres protagonistes de l'histoire. La SDECE, Service de Documentation Extérieure et de Contre-espionnage français, a toujours considéré le Maroc comme sa base arrière, dans l'hypothèse d'une invasion du territoire national par les soviétiques. Les prisons secrètes du roi où sont torturés, détenus et enterrés les opposants n'étaient donc pas une entrave à la coopération France-Maroc, menée à coups de barbouzerie, corruption et autres magouilles. Rappeler les alliances stratégiques derrière la mort de Ben Barka est aussi l'occasion de rappeler les réseaux et mécanismes inhérents au compagnonnage gaulliste. Au-delà de la figure du général, le livre propose une lecture systémique des manquements démocratiques qui entourent l'affaire. De Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, pas un seul des présidents de la Ve République n'a pris une quelconque initiative pour faire la lumière sur cette affaire. Motif, la raison d'État qui s'appuie sur un art du mensonge au plus haut niveau. Les justifications de l'immobilisme des institutions républicaines évoluent au fil du contexte politique, à l'instar des positions officielles françaises sur le Sahara occidental. Il s'agit de protéger notre ami le roi du Maroc, puis de préserver la stabilité du régime après la mort d'Hassan II, afin de conserver le Maroc comme rempart à la montée de l'islamisme. Si deux procès ont fixé provisoirement une vérité judiciaire avec des boucs émissaires, bien utiles pour éviter de remonter la chaîne des responsabilités, à ce jour, nul n'a de certitude à propos de ce qui est arrivé à Mehdi Ben Barka. L'acharnement des États, notamment français, à maintenir l'ordre autoritaire et colonial s'incarne aussi dans l'utilisation abusive du secret défense. 60 ans plus tard, cet outil antidémocratique maintient les proches dans l'ignorance la plus totale, comme l'exprime Bachir Ben Barka. « J'aurais aimé que ma mère sache la vérité avant de pousser son dernier souffle. Cela lui aurait rendu justice pour sa mémoire et celle de mon père. » En miroir des exactions institutionnelles, l'ouvrage rend hommage à la détermination des citoyens engagés dans cette lutte dispendieuse contre un système bien plus armé qu'eux, de l'exécutif à la justice en passant par les médias. Sa femme, Rita Benani, disparue l'an dernier, son fils, son avocat, Maurice Butin, 95 ans aujourd'hui, le juge Patrick Ramael et le journaliste Joseph Tual, tous ont tenté et tentent de résoudre le mystère pour que sa disparition cesse d'en être complètement une. Chlordécone, justice en demi-teinte. Après la fermeture de l'instruction pénale en janvier 2023 et l'échec de deux questions prioritaires de constitutionnalité, seule la procédure devant les juridictions administratives pouvait encore permettre de voir l'État condamné pour ce crime colonial que fut l'empoisonnement massif de la population martiniquaise et guadeloupéenne au chlordécone entre 1972 et 1993. La décision rendue par la Cour administrative d'appel de Paris ce 11 mars reconnaît la faute de l'État pour avoir renouvelé, à partir de 1976, les autorisations provisoires de vente des produits au chlordécone, puis l'homologation de deux produits en 1986. L'État est également épinglé pour ne pas avoir pris en charge le traitement des stocks de cet insecticide après son interdiction définitive en 1993. Sans oublier sa réponse excessivement tardive et insuffisante face aux pollutions et troubles à la santé. C'est la première fois que des victimes du chlordécone voient leur souffrance ainsi reconnue. L'arrêt ouvre par ailleurs le champ des pathologies pouvant amener un préjudice moral d'anxiété. Pour autant, cette décision reste largement insuffisante. D'abord parce que seuls 11 requérants seront indemnisés et que les sommes demeurent faibles, loin des 15 000 euros réclamés pour chacun. Ensuite, parce que les critères d'indemnisation sont restrictifs et peu représentatifs de l'expérience de violence subie. Plus de 30 ans après l'interdiction du chlordécone, le combat pour que justice soit rendue n'est pas achevé. Pesticides, l'exception antillaise encore. Le texte est passé quasiment inaperçu. Mercredi 9 avril au Sénat, une proposition de loi déjà votée en janvier par l'Assemblée nationale a réintroduit la possibilité d'épandre des pesticides par voie aérienne sur certains types de cultures. Une pratique pourtant interdite dans l'Union européenne depuis 2009. Cette proposition de loi, qui vise, selon son intitulé, à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l'aide d'aéronefs télépilotés, permet concrètement de recourir aux drones pour des traitements phytosanitaires considérés comme à faible risque par la réglementation européenne. Sont concernées les vignes mères de porte-greffe, les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20% et les bananeraies, autrement dit la production phare de la Martinique et de la Guadeloupe. La proposition de loi est arrivée par le député Renaissance du Rhône, Jean-Luc Fugy, chimiste de formation. Au Sénat, c'est le sénateur socialiste de l'Hérault qui en était le rapporteur, tous deux de fervents défenseurs du secteur de la vigne en crise depuis longtemps. Le texte a été adopté avec 237 voix contre 97. Socialistes, bloc centriste, droite et extrême droite ont voté à l'unanimité en faveur de ce nouveau recul écologique. Seules quelques rares abstentions sont apparues au sein du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, où l'on trouve des élus venus de Renaissance et des représentants des Outre-mer. Ce texte constitue une amélioration d'ordre environnemental, a plaidé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, au Palais du Luxembourg. Vraiment, peut-on s'en convaincre que ce soit pour les vignes, culture parmi les plus consommatrices de pesticides, ou pour les Antilles, où le chlordécone, longtemps utilisé dans les bananeraies, a contaminé l'ensemble des écosystèmes et des populations, provoquant une kyrielle de maladies dont beaucoup sont encore à identifier. L'exception antillaise que contient cette courte loi taillée sur mesure, elle tient en un unique article, résonne étrangement. C'est précisément une dérogation au droit français qui avait permis l'utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993, quand l'insecticide était déjà interdit dans l'Hexagone depuis 1990. La possibilité d'étendre par drone est surtout une demande de longue date des organisations de producteurs qui ont toujours défendu le recours aux produits chimiques, quelles qu'en soient les conséquences pour les travailleuses et travailleurs des bananeraies comme pour le reste de la population. Après plusieurs dérogations déjà obtenues au début des années 2010, l'épandage par hélicoptère n'était plus possible depuis 2014. Tout comme à l'époque du chlordécone, la baisse de rendement, une prétendue absence d'alternative et une supposée absence d'impact au-delà de l'effet escompté sont mises en avant pour obtenir gain de cause. On est dans le fantasme que ce qui est épandu dans le champ reste dans le champ, souligne Malcolm Ferdinand, auteur d'un ouvrage incontournable sur le scandale du chlordécone. C'est ainsi qu'au Salon de l'agriculture en février, Pierre Monteux, directeur général de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, est revenu à la charge. Depuis le début des années 2010, la cercosporiose noire s'est abattue sur nos îles, disait-il à l'occasion d'une conférence de presse spécialement organisée sur le sujet. Cette maladie foliaire attaque les feuilles et diminue la qualité de la production. Pour remédier à cette perte de compétitivité, deux solutions, selon ces grands propriétaires terriens, les drones et les nouveaux OGM. Une fuite en avant qui ne veut tirer aucune leçon du passé. Texte d'Amélie Poinceau, édito de Mediapart. Ça dépasse les normes. Quelques jours avant que la Commission européenne rende publique le 26 février sa proposition législative s'abordant les pourtant modestes mesures de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de droits environnementaux et humains, l'enquête Green Fakes de Mediapart, publiée du 17 au 21 février, est justement venu révéler comment les multinationales, telles Total Energy et Eiffage, violent déjà les normes censées protéger ces droits. Celles-ci s'achètent une légitimité verte, notamment en rémunérant grassement les bureaux d'études en environnement, soi-disant indépendants, comme le français Biotop, qui leur concocte des plans d'action biodiversité. En fait, ces plans éco-blanchissent des projets qui détruisent écosystèmes et moyens de subsistance des populations. Et en Afrique tout particulièrement, extraction du pétrole en Ouganda dans un parc naturel, exploitation du gaz au Mozambique, une mégabombe carbone selon les ONG, massacre d'une forêt tropicale en Guinée pour exploiter le fer et la bauxite, barrage en Côte d'Ivoire qui va détruire des forêts et des espèces protégées, inonder des terres agricoles, chasser les populations. Le tout avec la complicité des institutions financières qui ferment les yeux sur les violations de ces normes. Cela tombe bien, elles n'existeront bientôt plus. Le long combat des déportés kanakins. Des mois de mobilisation pacifique des forces indépendantistes n'y ont rien fait. Dans la nuit du 14 au 15 mai 2024, l'Assemblée nationale votait le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections locales en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Un véritable passage en force, un de plus, de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui ne pouvait que mettre le feu aux poudres. Il faut dire que ce dégel annoncé du corps électoral, en entérinant 170 ans de colonisation de peuplement, permettait de retirer au peuple premier de l'archipel toute réelle maîtrise de son avenir. Dès le 13 mai, alors que les discussions étaient encore en cours à l'Assemblée, les quartiers populaires de Nouméa et de ses environs, à majorité Kanak bien sûr, se soulevaient, bientôt suivis par une partie de la brousse. Un mouvement insurrectionnel qui se prolongea durant plusieurs semaines. La riposte de l'État a été, on s'en souvient, féroce, avec notamment l'instauration de l'état d'urgence et l'envoi massif de troupes sur place. Ce 8 janvier 2025, le procureur de la République de Nouméa, le peu amène Yves Dupas, dressé sur la radio anti-indépendantiste RRB un ultime bilan de la répression. 2530 gardes à vue, 502 déferrements, 243 incarcérations et 650 convocations en justice. Il omet d'y ajouter 11 Kanaks tués, dont 7 par des policiers ou gendarmes. Des chiffres d'autant plus terribles que la Kanaky Nouvelle-Calédonie ne compte que quelque 270 000 habitants et seulement 112 000 Kanaks, en réalité les seuls visés, ou presque, par cette vaste opération de punition collective. Car sans surprise, l'institution policiaro-judiciaire s'est bien gardée de s'attaquer au comité de voisins vigilants, ou aux milices de colons qui paradaient fusils à la main dans les rues du Grand Nouméa au plus fort de la crise. Autant de blancs surarmés déterminés à en découdre avec les autochtones. Dans un communiqué publié le 20 août, 4 experts des Nations Unies jugeaient sévèrement l'action française des derniers mois sur le territoire. Le manque de retenue dans l'usage de la force contre les manifestants kanaks et le traitement exclusivement répressif et judiciaire d'un conflit dont l'objet est la revendication par un peuple autochtone de son droit à l'autodétermination est non seulement antidémocratique mais profondément inquiétant pour l'état de droit. Moment de saillant de ce traitement exclusivement répressif et judiciaire, le 22 juin, 7 militants indépendantistes kanaks, en plus d'être mis en examen pour des motifs délirants sans aucun lien avec la réalité de leur activité politique, étaient expédiés manu militari en métropole. Un transfert expéditif pensé par le gouvernement français pour châtier les soi-disant responsables de la révolte. À la même période, de manière bien plus discrète, pour ne pas dire franchement dissimulé, plus de 70 détenus de droit commun purgeant leur peine au centre pénitentiaire de Nouméa faisaient le même chemin rejoignant des prisons hexagonales. Officiellement abolie en 1960, la peine de déportation continue ainsi d'être appliquée sans vergogne aux populations colonisées. Le prolongement d'une longue tradition, comme le rappelait le site Histoire coloniale et postcoloniale, en juin 2024, la France renoue à présent avec un très ancien mode opératoire particulièrement brutal de la répression des révoltes et résistances dans ses colonies, la déportation politique carcérale de leurs leaders. Et d'ajouter que des milliers de colonisés connurent ce sort au XIXe et XXe siècle pour s'être élevés contre l'occupation et l'oppression coloniale. Presque 10 mois après leur transfert, ces déportés sont toujours retenus contre leur gré dans l'Hexagone, aux antipodes de leur terre, de leurs proches, de leur vie. Et ce, dans une trop grande indifférence qu'il convient désormais de briser. Il est temps que s'enclenche une grande campagne de solidarité avec ces victimes de l'ordre colonial, dont le premier crime est, n'en doutons pas, d'être kanak. Logique coloniale carcérale, les droits communs aussi. Les 7 militants de la CCAT ne sont pas les seuls à avoir été déportés. Donc, Des dizaines de prisonniers dits de droit commun, la plupart kanaks, se retrouvent aujourd'hui eux aussi détenus à 17 000 km de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. L'insurrection populaire kanak de l'année dernière aura également permis de rendre visible la situation des détenus dits de droit commun en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et tout particulièrement la pratique discriminatoire et coloniale de leur déportation vers la France. Une pratique dont la légalité peut au minimum être questionnée, vu la spécificité du statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et le droit au respect et à la continuité de la vie familiale telle que définie par la Convention européenne des droits de l'homme. Un rappel tout d'abord, plus de 90% des détenus du territoire sont des autochtones et les autres presque tous des Océaniens. Des chiffres sidérants par leur disproportion lorsqu'on sait que les Kanaks ne représentent que 41% de la population générale de l'archipel, selon le recensement de 2019. Voilà qui révèle bien le racisme et les discriminations qui ont cours là-bas. En somme, une réalité coloniale. Le 13 mai 2024, alors que le territoire s'embrase, une mutinerie éclate également au camp Est, la principale prison du territoire située à Nouméa. Elle aboutit à la destruction de près d'un tiers des cellules de cet établissement, notoirement vétuste et surpeuplé. Un soulèvement qui s'inscrit autant dans le cadre de protestations contre les conditions de détention particulièrement infâmes de ce pénitencier, établi dans les bâtiments même de l'ancien bagne, que dans le mouvement global de contestation du dégel du corps électoral local, alors en discussion à l'Assemblée nationale. La répression fut particulièrement violente, impliquant RAID, GIGN et IRIS, qui sont les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Divers témoignages corroborés parlent de tabassages individuels et collectifs quotidiens pendant plusieurs semaines, voire jusqu'à fin octobre, et évoquent même le décès d'un détenu. Conséquence de cette mutinerie, mais aussi volonté de faire de la place pour les nombreux interpellés pendant la répression de l'insurrection populaire à l'extérieur, une partie des condamnés à de longues peines est envoyée dans les prisons hexagonales dans les semaines qui suivent, entre mi-juin et mi-juillet, soit à peu près en même temps que les 7 militants de la CCAT. Ce genre de transfert de prisonniers n'est pas une pratique nouvelle, en dépit de l'illégalité et de l'atteinte manifeste aux droits des prisonniers, mais jamais elle n'avait été constatée avec une telle ampleur. Au total, au moins 76 prisonniers ont été déplacés en plusieurs vagues, et ce, en extorquant leur accord sous la pression pour nombre d'entre eux. On a aussi fait croire à certains qu'ils étaient transférés au centre de détention de Koné, en province nord. Ce n'est qu'une fois en route vers l'aéroport qu'ils ont compris la tromperie. Consentant ou non, aucun n'a eu le temps nécessaire pour emporter ses affaires et prévenir famille et avocats. Ces détenus ont ainsi été exilés à 17 000 km de toutes leurs relations, que ce soit hors ou au sein de la prison. Ils se retrouvent isolés dans des établissements où ils sont souvent les seuls kanaks, où ils ne bénéficient pas de même possibilités de suivi et de réinsertion, car manquant de réseau en France, et où même leurs droits administratifs ne sont pas reconnus. Par exemple, leurs numéros de sécurité sociale néo-calédoniens ne sont pas compatibles avec les numéros français. De la même façon, les conditions de leur sortie, souvent des libérations conditionnelles impliquant un strict contrôle du lieu de vie, sont rendues bien plus difficiles, vu leur manque de relations localement. En cas de libération, le retour au pays coûte plusieurs milliers d'euros, totalement à la charge du détenu. Des familles ont également dû s'endetter et parfois même vendre tous leurs biens pour pouvoir suivre en France des détenus particulièrement fragiles. Ces transferts forcés ont aussi été conçus comme des punitions à l'encontre de détenus accusés d'avoir participé à la mutinerie de mai 2024. Certains sont d'ailleurs aujourd'hui poursuivis pour ces faits et leur isolement a dû les priver de l'assistance d'avocats dans ces procédures. La solidarité s'organise à la demande d'un certain nombre de familles. Elle est relayée en France par les collectifs de solidarité avec la Kanaky et la lutte anticarcérale. Mais il a d'abord fallu retrouver les noms de toutes ces personnes déportées, leur numéro d'écrou, puisqu'aucune liste officielle n'avait été communiquée par l'administration pénitentiaire. un travail de fourmi pour pouvoir entrer en contact avec les détenus et leur apporter le minimum nécessaire, certains étant arrivés sans aucun vêtement chaud pour l'hiver et sans même le minimum basique pour se changer. Plusieurs d'entre eux ont aussi pu recevoir de l'argent pour cantiner ou acheter des cartes téléphoniques pour joindre leurs proches en Kanaky. Ceux qui l'ont souhaité ont aussi pu bénéficier de l'aide gracieuse d'avocats militants. Même si les faits ayant mené à leur incarcération ne sont pas spécifiquement politiques, tous ces détenus subissent une déportation, pour le coup, très politique. Leur sort est finalement assez semblable à celui de ces prisonniers déportés dans l'archipel jusqu'à la fin du XIXe siècle. D'où l'importance d'une réponse politique. Des manifestations ont déjà eu lieu devant certaines prisons et des parlementaires sont venus rendre visite à quelques détenus. Les prémices, espérons-le, d'une mobilisation plus large pour demander le retour en Kanaky de tous ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, l'arrêt des poursuites pour tous les actes liés au soulèvement contre le dégel du corps électoral. Les éléphants blancs de retour en Mauritanie. Fournir de l'or bleu à plusieurs centaines de milliers d'habitants du désert ou de l'or tout court à quelques amis d'un allié de la France? Telle est la question. Entre les deux, l'Agence française de développement, l'AFD, balance. Lancé en 2012, le projet Aftout El Chargi, commandité par le ministère mauritanien de l'hydraulique et de l'assainissement et soutenu par l'AFD sous forme de 22,3 millions d'euros de prêts et d'une délégation de fonds de l'Union européenne de 4,7 millions, a été achevé en 2020. Et pourtant, l'échec est retentissant, dixit of investigation. Le média en ligne révèle ainsi que la plupart des bornes fontaines sont en panne ou non raccordées à des canalisations, voire carrément inexistantes pour 20% d'entre elles. Par ailleurs, les châteaux d'eau du projet devaient être équipés d'un système de télégestion à distance, mais ce gadget high-tech, totalement inadéquat dans une zone quasi sans connexion Internet, a été purement et simplement oublié par les entreprises. L'AFD n'a pas pipé et a même payé une rallonge, notamment pour le bitumage approximatif de 300 mètres de piste. Que ne ferait-on pas pour les amis du président mauritanien Razouani, qui reste à ce jour un allié de la France? La première entreprise du groupement qui a mal réalisé tous ses travaux est en effet BIS-TP, propriété d'un proche de Mohamed Ould Ghazouani. Suit une société sénégalaise, la compagnie sahélienne d'entreprises, qui a obtenu le contrat du temps du francophile Macky Sall. Les mauvais comptes font les bons amis. Résistance camerounaise. Au Cameroun, des multinationales françaises font face à la contestation sociale et y répondent avec la complicité du dictateur Paul Biya par le mépris et la répression. Ainsi, dans le centre du pays, près de 4000 saisonniers de la société sucrière du Cameroun, filiale du groupe Castel, qui fait plus de 80% de son chiffre d'affaires en Afrique, se sont mis en grève le 26 janvier. Ils protestent contre un changement du système de paiement, réclament une revalorisation de leur misérable salaire de base et dénoncent un travail esclavagiste. Le 4 février, la direction fait appel aux forces de sécurité qui ont tenté de mettre de force les grévistes dans les bus pour les conduire au champ. La population a dit non et s'est levée comme un seul homme. C'est à ce moment-là que la police a commencé à tirer avec de vraies balles et que l'un des nôtres est tombé. Aussi sur la sellette, le groupe Bolloré, via la société Socfin, qu'il détient à près de 40%, et ses filiales Socfinaf et Socapalm. Cette dernière est ainsi visée par des rapports publiés en février par Earthworm Foundation et l'accusant entre autres de harcèlement sexuel, d'occupation de sites sacrés et de spoliation des terres dans ses plantations. Alors que les villageois d'Apu, dans l'ouest du pays, luttent depuis plus de 15 ans pour récupérer leurs terres afin de se nourrir, la Socapalm a décidé d'y replanter des palmiers à huile. Malgré la répression, les femmes, à la pointe de la résistance, ripostent en occupant les terres accaparées. Nous allons continuer à mener nos revendications jusqu'à ce que les terres que nous exigeons nous soient rétrocédées, a déclaré Félicité Ngombissou, leur porte-parole. France Rwanda, 1990-1994, l'État français face à la justice administrative. Mobiliser l'outil judiciaire pour une reconnaissance, voire une condamnation de la complicité française dans le génocide Tutsi, reste à ce jour une gageure, notamment au pénal. D'où l'idée d'essayer une autre voie en attaquant sur le terrain de la justice administrative. Explication. Comment mobiliser l'outil judiciaire pour faire reconnaître et sanctionner la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ? Jusqu'à présent, on ne peut que constater un enlisement des procédures engagées depuis des années par des associations, dont Survie, devant la justice pénale française. Beaucoup se sont même soldés par un non-lieu, notamment la plainte actuellement renvoyée en cassation des rescapés de Bicizro. D'autres ne semblent pas prospérer, comme la plainte des femmes Tutsi qui accusent de viol les soldats français de l'opération Turquoise, celle concernant les ventes d'armes pendant l'embargo de l'ONU, celle contre la banque BNP pour le financement d'armes, ou encore celle contre le mercenaire Paul Baril. Autant de dossiers qui incriminent des représentants de l'État français ou de ses institutions. De quoi conduire à une réflexion sur les moyens d'action en justice et sur un changement d'approche. Cette réflexion s'est accélérée après la publication en 2021 du rapport Duclert. Celui-ci, fruit du travail d'historien, a fait suite aux recherches menées sans interruption depuis 1994 par la société civile et aussi en 1998 par une mission d'information parlementaire. Il a entériné, noir sur blanc, la reconnaissance d'une implication de l'État français. Il a souligné que la France a des responsabilités lourdes et accablantes du fait de son soutien aux extrémistes Hutus avant, pendant et même après le génocide des Tutsis. Cependant, en supposant que l'absence d'intention criminelle suffisait à absoudre l'État français de toute complicité, ce rapport apportait une appréciation qui ne relève pas de ses compétences et qui est juridiquement infondée. En 2023, une vingtaine de rescapés et de membres de familles de victimes, soutenus par deux associations, le collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR, et Rwanda Avenir, ont déposé une requête devant la justice administrative française. À la différence de la justice pénale qui règle les litiges opposant les personnes privées et sanctionne les auteurs de crimes ou de délits, la justice administrative tranche un conflit qui oppose un citoyen ou une organisation à l'administration, par exemple l'État. Elle peut faire annuler un acte illégal d'une institution publique et éventuellement, comme ici, demander une réparation pour les conséquences de cet acte. Le mandataire des requérants est Philippe Raphaël, magistrat administratif, qui définit la stratégie et rédige les mémoires. La requête, déposée en première instance devant le tribunal administratif, attaque, à la fois globalement et dans le détail, l'action de l'État français au Rwanda de 1990 à 1994 et sa responsabilité dans le génocide Tutsi. Elle regroupe trois mémoires totalisant 300 pages, nourries par des années de travail de la société civile, journalistes, chercheurs, militants associatifs, et des rapports de parlementaires ou d'historiens. Ces mémoires visent des actions qui pourraient être qualifiées de fautes systémiques ou d'erreurs d'appréciation et dont la première conséquence est de rendre l'État français de fait complice d'un génocide. Ces actions ont notamment été menées pendant les trois interventions militaires françaises, l'opération Noroi, octobre 1990-décembre 1993, qui détourne le traité d'assistance militaire de 1975 au motif fallacieux d'une agression étrangère. Durant cette opération, des forces françaises ont participé à des contrôles d'identité, alors même que la mention Tutsi sur la carte d'identité suffisait à mettre en danger les personnes contrôlées. L'opération Amaryllis, avril 1994, constitutive de non-assistance à personne en danger lorsque l'élimination massive des Tutsis commence. L'opération Turquoise, juin à août 1994, déclenchée pour soutenir le gouvernement génocidaire sous couvert d'un détournement du mandat humanitaire de l'ONU. Les requérants considèrent, entre autres, que l'État français a engagé sa responsabilité du fait de fautes lourdes commises par ses préposés dès lors qu'il a apporté aide et soutien au gouvernement rwandais, qu'il n'a pas dénoncé le traité d'assistance militaire conclu le 18 juillet 1975 entre la France et le Rwanda, qu'il n'a pas cherché à faire cesser le génocide lorsqu'il était en cours et qu'à la fin du génocide, il a apporté son soutien aux membres des forces armées rwandaises durant leur retraite. L'État a privilégié, en le détournant, l'accord d'assistance technique de 1975 sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, dont la France est pourtant signataire depuis 1950. Or, la valeur juridique de cette dernière prime de très loin sur celle d'un simple accord. Contrairement à ce que l'Élysée a laissé entendre le 4 avril 2024, ce n'est pas par simple manque de volonté que l'État français s'est abstenu de prévenir le génocide. Ce qui a prévalu, c'est la volonté de faire et laisser faire. Dans le cadre de la politique france-africaine, et certes sans intention génocidaire, les différents organes de l'État ont maintenu une aide technique et un soutien aux extrémistes hutus. Et ce, avant, pendant et après le génocide qu'ils ont conduit, alors même que les services de renseignement français informaient les décideurs en temps réel. L'armée française et son chef d'état-major ont outrepassé leurs prérogatives au détriment des autorités civiles. Le soutien militaire français à l'armée rwandaise a aidé le régime génocidaire à se maintenir au pouvoir. Ainsi, le 19 juillet 2021, Antoine Anfray, nouvel ambassadeur de France au Rwanda, a-t-il pu écrire sur le livre d'or du mémorial de Gisozi « Le génocide des Tutsis n'aurait pas eu lieu si nous avions eu une autre politique ». Centré sur la réponse étatique et non sur les personnes, la requête a mis en cause les administrations des ministères de la Défense, actuel ministère des Armées, des Affaires étrangères et de la Coopération, actuellement regroupé dans le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que le Premier ministre. Parmi celles-ci, seul le ministre des Armées a répliqué. Son mémoire de 7 petites pages ne répond aucunement sur le fond. Le ministère demande simplement à bénéficier d'une célèbre jurisprudence du Conseil d'État datant de 1875. Celle-ci tolère que les décisions gouvernementales qui concernent les relations entre la France et l'étranger puissent échapper à la justice administrative. Les décisions concernées, appelées actes de gouvernement, sont par exemple la suspension d'un traité ou d'un accord international, les mesures prises au cours de la négociation d'un traité ou la décision du président d'engager les forces militaires à l'étranger. Or, cette forme d'immunité juridique française tend à être remise en question aujourd'hui. Ainsi, en septembre 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État français qui l'invoquait. L'instruction a été clôturée en juin 2024. L'audience s'est tenue le 24 octobre et la décision a été rendue le 14 novembre. Dans son jugement, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent, se rangeant ainsi du côté du ministère des Armées. Il entérine ainsi la position de l'administration qui se substitue au juge et se juge elle-même. La décision du tribunal administratif stipule que l'ensemble des décisions et agissements de la France au Rwanda qui sont mis en cause n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France à l'égard de l'État rwandais, puis également à compter de juillet 1994 de l'Organisation des Nations Unies dont le Conseil de sécurité lui avait confié un mandat et soulève des questions qui ne sont pas susceptibles par leur nature d'être portées devant la juridiction administrative. Comme le tribunal se refuse à tout examen des faits et de leur légalité, il ne saurait juger de la complicité de génocide. En janvier 2025, les requérants font appel, considérant notamment que, premier point, cette théorie des actes de gouvernement qui ne repose que sur une jurisprudence est une négation de l'état de droit. Cette immunité juridique absolue est contraire à la Constitution, notamment au principe de séparation des pouvoirs et à l'ordre public international, notamment la Convention pour la prévention du génocide. Point 2. Même si l'on accepte que cette protection s'applique, elle ne couvre pas les actes du président de la République et des personnes participant à la fonction gouvernementale. Elle ne concerne pas les décisions prises de manière autonome par les autres autorités administratives, notamment le chef d'état-major des armées. Troisième point, en outre, les décisions illégales attaquées dans la requête ne font pas partie de celles qui pourraient être protégées. En effet, elles ne concernent pas la conduite de relations internationales et ne constituent pas non plus des opérations de guerre. En résumé, le juge administratif est entièrement compétent pour se prononcer sur ce contentieux. Même si l'on reconnaissait qu'il est justifié que les décisions gouvernementales concernant les relations internationales échappent à la justice, la jurisprudence a conduit à définir des actes détachables qui, eux, peuvent être jugés. Ce sont ceux qui touchent les personnes et qui n'influent pas sur les relations diplomatiques de la France. Selon les requérants, les trois quarts des actes attaqués dans la requête sont détachables et donc jugeables de toute façon. Par exemple, le contrôle des cartes d'identité par des soldats français, la non-séparation des génocidés et des génocidaires dans les camps de réfugiés sous contrôle de l'armée française ou la non-interruption de la radio-télévision libre des Mille Collines, RTLM. Il demeure une double question fondamentale pour la démocratie. D'une part, est-ce que des actes constitutifs de complicité de génocide font partie de la normalité des actes du gouvernement ? D'autre part, est-ce que la protection que leur reconnaît le Conseil d'État est supérieure en droit aux normes internationales et à la Convention de prévention du génocide ? Avec une rapidité hors norme, la Chambre administrative d'appel a tenu son audience ce 7 mars. Au moment où ce texte a été publié, la décision n'est pas encore connue. Si elle suit le rapporteur public, elle entérinera le jugement de première instance. Pour faire dire le droit, faire reconnaître que l'État français est complice de génocide et mettre fin à son impunité, les requérants sont prêts à aller, si nécessaire, en cassation devant le Conseil d'État. À lui de renverser sa propre jurisprudence afin de lever l'immunité dont jouissent les responsables qui prennent des décisions dont les conséquences sont des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité. Si le Conseil d'État s'y refuse, le dossier ira devant la Cour européenne des droits de l'homme, un nouveau long combat en perspective.
wakatsenkai.